Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Bientôt sera gelée la TVA sur certains produits de première nécessité afin d'obtenir la baisse des prix sur le marché. Déclaration faite par le ministre d'État du Plan, Christian Mwando, à l'issue de la réunion de la conjoncture économique. Invalidation des députés nationaux absentéistes. L'option a été levée à Kinshasa à la faveur d'une motion incidentielle du député national Paulin Odiane. Une commission spéciale sera mise sur pied pour formaliser l'opération. Notre invité, c'est le professeur Léon Odimoula, ce juge au Conseil d'État parle des options liées au contentieux administratif depuis l'éclatement de la Cour suprême de justice. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Ouvrons par un mot d'économie. Le gouvernement congolais prend des dispositions pour faire face aux effets néfastes de la guerre en Ukraine sur l'économie nationale. Des solutions envisagées ont été au menu de la réunion de la conjoncture économique tenue hier ici à Kinshasa. Le ministre d'État du Plan affirme que la TVA sur certains produits de première nécessité sera gelée afin de pouvoir obtenir la baisse de prix sur le marché. On écoute le ministre du Plan, Christian Mwando.
Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. Nous avons eu le rapport également du ministre des Hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international, dans la mesure où au mois de janvier, on était plus ou moins à $80 le baril. Maintenant, on est autour de $110 le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir eu des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, travail qu'il est en train de finaliser.
L'actualité, c'est aussi l'inauguration au Nord Kivu des projets d'autonomisation alimentaire de la prison centrale de Beni, financé par la MONUSCO. Un potager, un moulin à grains et un poulailler doivent ainsi permettre d'améliorer de mieux en mieux les conditions de vie des détenus. Ils mangeront désormais les patates douces, le maïs, le manioc et le chou. Reportage à Beni de Joël Bofengo.
Les résultats de certains projets sont déjà visibles. Selon les responsables de cette maison carcérale, 450 kilos de patates douces sont récemment sortis du potager. Une partie a été partagée avec la prison des femmes et la prison de Lubero. Patience Saï est la responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Elle souligne la question du bien-être des détenus, car quoique privés de liberté, ces hommes et ces femmes ont des droits qui doivent être respectés.
Ça rentre dans la perspective de l'humanisation de la prison. Donc là, de l'homme, ça fait partie de notre objectif. Souvent, on a quand même les rapports de décès, de malnutrition et tout ça. Donc ça, c'est aussi pour pouvoir utiliser les détenus à se nourrir, disons.
Le représentant de la ministre de la Justice à cette cérémonie, Ngobila Bokango, a reconnu l'importance de ce genre de projet qui permettent aux prisons de pouvoir résoudre la question de l'alimentation des détenus de manière autonome.
Nous devons passer du système de financement des prisons à l'autofinancement des prisons, à l'autoproduction des prisons.
Ces projets, dont le coût global est estimé à $225,000 américains, s'étendent également au territoire des Lubero, où un nouveau quartier pour les femmes a été construite dans la prison. L'établissement pénitentiaire va d'ailleurs être rénové et agrandi. Depuis Bénin, Joël Bofengo pour Radio Kapi.
On en vient maintenant à la politique. L'invalidation des députés nationaux absentéistes est désormais enclenchée à Kinshasa. L'option a été levée lors d'une séance plénière à la suite d'une motion incidentielle du député national Paulin Odiane. Hier, la conférence des présidents a même fixé les étapes de la procédure. Le rapporteur de l'Assemblée nationale affirme qu'une commission sera mise sur pied pour analyser les rapports généraux de la participation de chaque député national au plénière. plénière. Les absents à plus de 60% seront invalidés et remplacés par leurs suppléants. Joseph Lembi le dit au micro de Michel Kefindangoy.
Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, et il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, les rapports ont été élaborés, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ces gens de pratiques.
Selon l'article 90, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le mandat d'un député national prend fin par une absence non justifiée et non autorisée. Autre nouvelle, au Nord Kivu, l'insécurité retarde ce jour-ci l'assistance d'urgence dans les territoires de Rutshuru, selon le responsable du HCR Goma. Lors de la première mission d'évaluation au début du mois d'avril, ils font remarquer que seuls 600 ménages des déplacés des récentes attaques de rebelles du M23 avaient reçu une première assistance sur des dizaines de milliers. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Denyangui.
Dans un café de presse hier mercredi, le responsable du cluster abri au HCR à Goma indique qu'au moins 1500 ménages seulement avaient pu être recensés par la coordination humanitaire lors de la première évaluation du 5 au 8 avril dernier dans quelques sites de Rutshuru Centre. L'opération devrait se poursuivre quand les conditions sécuritaires pourraient le permettre, dit-il.
On a pu travailler avec les autorités, en synergie avec le PAM, avec OCHA, pour identifier ces personnes et pour apporter les premières assistances. 500 ménages ont reçu des bâches avec tous les autres kits, à l'école Epe Rugabo et aux alentours. Et 88 ménages ont reçu quand même des couvertures, des nattes et du savon. Nous nous préparons encore à y retourner en fonction maintenant après les évaluations. C'est déjà un peu calme parce que nous avions annoncé 1500 ménages qu'on pouvait assister.
Signalons que les affrontements de fin mars à début avril entre les FRDC et le M23 dans le groupement de Djomba en territoire de Rutshuru avaient mis sur le chemin d'exil une population estimée à plus de 40 000 ménages, notamment du groupement de Djomba, selon la coordination locale de la société civile. Cela sans compter plusieurs autres qui avaient fui vers l'Ouganda. Goma, Bernard Denyangui, Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, le bilan de l'attaque de mardi soir à Diambou, localité située à 7 km de Fataki Centre, est passé de 3 à 10 morts. 7 nouveaux corps ont été identifiés dans la brousse mercredi soir après l'attaque des miliciens de l'ARDPC, une faction de la CODECO, ce qui porte à 13 le nombre des civils qui ont été tués dans la région à l'espace de 4 jours. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
Les victimes de ces massacres sont des paysans qui travaillaient dans leurs champs. Selon des sources sécuritaires, après avoir tué 3 personnes à Diambou, non loin de la localité de Katou, en secteur de Walindupiti, ces assaillants, dans leur passage, ont ouvert les feux sur un groupe de personnes qui se trouvaient aussi dans leurs champs. 7 parmi elles, dont 3 enfants, ont été touchés par balles et mortes sur les champs. Leurs corps ont été découverts dans la brousse aux petites heures de la soirée du mercredi par les activistes des droits humains et les chefs locaux. On note également 5 autres personnes grièvement blessées et une femme violée par ces malfrats, indique un rescapé. La même source ajoute que tous les corps ont été remis à leurs familles respectives et seront mis à terre ce jeudi. La société civile locale déplore l'absence des forces de sécurité dans plusieurs entités de la région de Hala, ce qui, selon elle, permet aux assaillants de la CODECO de commettre l'exercice en toute quiétude. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole de l'armée. Mais à Ituri, Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Ituri encore, le trafic a repris timidement ce matin sur la route nationale numéro 27, axe Bounia-Goli, à la frontière avec l'Ouganda. Ce trafic avait été suspendu mercredi à la suite des exactions commises par des assaillants de la CODECO qui ont barricadé la route au village de Bakalou dans les territoires de Djougou. Sur place, ils ont pris en otage 8 personnes qui voyageaient à bord des véhicules des transports en commun. Martial Kizabiamungu.
Il s'agit de 4 véhicules à provenance de Mahagu qui s'est rendu à Bounia sur la RN27 au village Mbakoulou vers 15h30 local. Ils sont tombés sur un groupe d'assaillants de la Côte d'Éco qui ont barricadé la route, obligeant les passagers à descendre de leur véhicule avec menace de mort pour les récalcitrants selon les rescapés. 8 parmi eux ont été emportés à brousse et acheminés vers la localité Masikini. Alertés, les FRDC se sont lancés à la poursuite des malfrats pour libérer les personnes kidnappées, mais en vain. Une panique a gagné la région. Plus de 40 véhicules ayant quitté Bounia pour Mahagu et l'Ouganda ont rebroussé chemin et d'autres ont préféré passer la nuit à Djougou Centre. Ce matin, suite à une petite accalmie, certains véhicules ont pris les risques de s'engager sur cette route, mais d'autres sont toujours immobilisés à Djougou Centre. Selon des sources sécuritaires, les ravisseurs exigent 500 000 francs congolais par personne pour leur libération. Les opérateurs économiques craignent déjà que la montée de l'insécurité sur cette route nationale qui relie la RDC à l'Afrique australe n'ait un impact négatif sur le prix de certains produits des premières nécessités sur les marchés à Bounia. Martial Kiza Biamongo, Bounia. Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans le Maïndombe, 99 élèves des peuples autochtones vont bientôt présenter l'examen d'État cette année. L'inspecteur principal de l'enseignement primaire, secondaire et technique parle d'un taux d'accroissement par rapport aux années précédentes. Ces enfants, qui sont actuellement pris en charge par l'État congolais, étudient gratuitement, ce qui a favorisé cet accroissement. Il y a aussi l'implication des leaders communautaires locaux. À Bandundouville, la correspondance d'Irène Mboma.
Comparativement à l'année scolaire dernière, le nombre des élèves finalistes du secondaire des peuples autochtones pygmées, communément appelés PEA, a connu un accroissement sensible de près de 68% pour l'exercice en cours dans la province éducationnelle du Maïndombe 1. Pour l'inspecteur principal provincial, IPP de cette juridiction, c'est un sujet de joie car selon lui, cette catégorie de personnes souvent marginalisées par les Bantous a maintenant commencé à comprendre l'importance des études. Cela à la suite des sensibilisations intenses et aussi grâce à la gratuité de leurs études qui sont prises en charge par l'État congolais, a déclaré Zéphirin Kalutoso.
L'année passée, pour les finalistes, il y avait 32 PAD. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, l'influence des leaders communautaires sur l'intégration de ces pygmées, nous avons eu un taux d'accroissement de 67,7%. Les PAD sont passés de 32 à 99, vont se présenter aux épreuves cette année. Et surtout, ils jouissent de cet avantage d'intégration. Pas payer les frais de scolarité, même les frais de participation aux épreuves pris en compte par l'État.
L'IPP du Maïndombe 1 demande à tous les parents de ces élèves PEA de ne pas les amener en forêt pour la chasse ou la pêche, mais de les laisser fréquenter l'école jusqu'à ce qu'ils vont présenter l'examen d'État. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Partons maintenant pour le Sud Kivu où les frais de participation aux examens d'État sont fixés à 47 dollars américains ou l'équivalent en francs congolais. Ainsi en a décidé à Bukavu le gouverneur Teungwa Bijekasi. Ce montant a presque doublé par rapport à l'année dernière. Des voix s'élèvent pour réclamer la réduction sensible de ce frais de participation aux examens d'État. Radio Okapi Bukavu, Cynthia Bachizina Bizana.
Certains députés provinciaux estiment que 47 dollars américains, c'est beaucoup trop, surtout si l'on tient compte de la situation socio-économique actuelle qui se dégrade du jour au lendemain, selon Jacques Kamonda, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Mais dans son arrêté, Théo Kasingwabidje, gouverneur de province, dit tenir compte des propositions du comité provincial de l'EPST. Explication de Léon Moussagui, chef de division des services généraux à l'EPST Sud Kivu.
L'année passée, les inspecteurs ont travaillé dans la condition un peu compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de manques à gagner. Il y a certains inspecteurs qui n'étaient pas payés. Voilà pourquoi, après la descente du ministre national pour évaluer la situation, il a été demandé au comité provincial de l'éducation Sud Kivu de s'asseoir et d'évaluer l'année passée. Voilà pourquoi le comité provincial a proposé ce montant-là au gouverneur de province.
Précisons que ce comité provincial est constitué de presque toutes les parties prenantes dans le secteur. C'est notamment le PROVED, l'inspecteur principal provincial, les comités des parents, les syndicalistes, les représentants des écoles tant conventionnées que privées agréées. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au 57e jour de l'invasion russe en Ukraine, le président Vladimir Poutine a jugé ce jeudi après-midi que ses forces avaient avec succès libéré la ville de Mariupol et a ordonné en même temps d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de leur donner l'assaut. En campagne électorale près de Paris, le président français a appelé ce jeudi son homologue russe Vladimir Poutine à se montrer responsable, à ne céder à aucune forme de provocation, estimant que ce serait un changement profond de la grammaire internationale. Emmanuel Macron vise sa réélection dimanche prochain face à Marine Le Pen. Et puis, les députés britanniques ont ouvert ce jeudi une enquête pour déterminer si le chef du gouvernement Boris Johnson a sciemment trompé le Parlement britannique dans ses explications sur les scandales autour des fêtes organisées par lui lors des confinements liés à la pandémie du coronavirus.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Léon Odimoula, ce juge au Conseil d'État parle des notions liées au contentieux administratif depuis l'éclatement de la Cour suprême de justice. Il s'entretient avec Jean-Francis Mouya.
Professeur Léon Odimoula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juge au Conseil d'État. Aujourd'hui, vous avez intervenu à cette conférence qui est organisée à l'occasion de la campagne de vulgarisation de cette juridiction. Votre intervention a porté sur les notions relatives au droit administratif et au contentieux administratif. Alors, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un contentieux administratif ?
Un contentieux administratif renvoie à un litige né de l'exercice de l'activité administrative.
Comment se règle-t-il ?
Ce contentieux peut se régler au niveau de l'administration elle-même ou devant le juge. Donc, il s'agit donc d'un contrôle administratif organisé au sein de l'administration, par exemple par la voie hiérarchique. Il s'agit d'un contrôle interne au sein donc de l'administration. Ce litige peut prendre fin, par exemple à l'amiable aussi, lorsque la victime d'un acte, d'une décision ou d'une décision d'une autorité administrative saisit l'autorité qui a pris cette décision. Cette autorité peut aussi revenir sur sa décision, mais la plupart des temps, lorsque l'administration refuse de revenir sur sa décision, le particulier victime, c'est-à-dire l'administration, dispose du droit de saisir le juge par voie de recours en annulation. Et donc, de cette manière-là, le litige prend fin par la voie juridictionnelle.
Et là, il s'agit de quelle juridiction ?
Il s'agit, il faut dire que c'est en tenant compte de la qualité ou de l'autorité qui a pris l'acte, qui a fait victime et a fait grief. S'il s'agit d'une autorité administrative du pouvoir central, tel le président de la République, le premier ministre, le ministre, par un litige, relève donc de la compétence du Conseil d'État, juridiction administrative suprême.
Pour ce qui est du Conseil d'État, de manière un peu ramassée, quelles autres prérogatives la loi lui reconnaît ?
Oui, le Conseil d'État, comme juridiction administrative suprême, connaît plusieurs types de contentieux, dont le contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir, lorsqu'une autorité administrative a pris une décision ou un acte au mépris de la loi. Cet acte-là ou cette décision encourt l'annulation devant le Conseil d'État lorsqu'il s'agit d'une autorité, lorsque la décision est l'œuvre d'une autorité administrative centrale ou des organismes qui relèvent des autorités de l'administration centrale ou de qui sont placés sous la tutelle des autorités administratives centrales. En dehors du contentieux de l'annulation, il y a le contentieux de pleine juridiction. À travers ce type de contentieux, les particuliers victimes qu'on appelle administrés a le droit donc de demander non seulement l'annulation de l'acte qui porte atteinte à ses intérêts, mais également les dédommagements ou l'indemnisation ou encore mieux la réparation du préjudice causé du fait de l'acte illégal pris par l'autorité mise en cause.
Pour finir, professeur, les décisions de cette juridiction sont-elles susceptibles de connaître des voies de recours ?
Oui, les décisions du Conseil d'État connaissent des voies de recours, lesquelles sont de désordre. Il y a des voies de rétractation et des voies de réformation, mais toutes ces voies de recours sont exercées au niveau du Conseil d'État lui-même, parce que le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative suprême. Cela signifie qu'au-delà du Conseil d'État, il n'y a pas une autre juridiction appelée à revenir sur ses propres décisions. Voilà pourquoi, à son sein, il est organisé de voies de recours de réformation et de voies de recours de rétractation.
Professeur Léon Diboula, merci.
Je vous en remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le professeur Léon Odimoula, ce juge au Conseil d'État, était interviewé par Jean-Francis Mouya. Il est 18h20 à Kinshasa. Ainsi se referme ce journal qui a été coordonné par Blaise Shindani Kambala sous la supervision éditoriale de Alain Irung Mouchige. Retrouvez-les sur www.radiookapi.net.